VOA Afrique, les infos à Washington.
Eric Manelakiza, toujours avec vous dans ce bulletin d'information. Il est 15h ici à Washington. D'ici, l'opposition en Guinée a annoncé ce dimanche avoir reporté une manifestation contre la junte prévue demain lundi à Conakry pour un apaisement dans le pays et l'ouverture d'un dialogue crédible avec le pouvoir. Les forces vives de Guinée, une coalition des principaux partis de syndicats et d'organisations non gouvernementales, avait appelé à une marche pacifique. Elle décide d'accéder à la demande des autorités religieuses musulmanes et chrétiennes de mener leur démarche de conciliation dans le calme et la sérénité. Ces forces vives réclament un retour rapide des civils au pouvoir et la libération de tous les prisonniers qu'elles considèrent comme politique. Une manifestation de l'opposition kényane prévue demain lundi est interdite pour ne pas avoir respecté le délai légal de dépôt, a annoncé ce dimanche le chef de la police de Nairobi, alors que l'opposition maintient la mobilisation. Raila Odinga, leader du parti Azimio la Umoja, a appelé à une manifestation contre notamment l'inflation qui s'est élevée en février sur un an à 9,2% dans le pays. Monsieur Odinga continue d'affirmer que l'élection présidentielle très serrée du 9 août 2022 lui avait été volée et que le gouvernement de William Ruto est illégitime. Une vingtaine de civils ont été tués hier samedi dans deux attaques distinctes dans l'est de la RDC, où des combats ont par ailleurs repris entre l'armée et les rebelles du M23, rapporté ce dimanche de sources locales. Les victimes ont été tuées à l'armée blanche à coups de machette et de couteau. Une dixième personne est grièvement blessée et deux enfants sont portés disparus, a indiqué le chef du village d'Ongoudi en territoire d'Orubero. Le décompte des voix est en cours ce dimanche au Nigeria après des élections locales marquées par des incidents violents, des irrégularités et des signes de faible participation. Dans la capitale économique Lagos, où l'élection du gouverneur est très serrée, des électeurs nourrissaient l'espoir d'un scrutin libre et juste. Ce scrutin s'est déroulé trois semaines après la présidentielle remportée par le candidat du parti au pouvoir et contesté par les principaux partis d'opposition. Certains résultats pour les assemblées générales étaient diffusés peu à peu, mais ceux des élections au poste de gouverneur n'étaient pas encore disponibles. Plusieurs scrutins ont été reportés et doivent se tenir ce dimanche. L'Égypte accueille ce dimanche des représentants israéliens et palestiniens pour tenter de ramener le calme après la récente flambée de violence en Cisjordanie occupée, selon le ministère égyptien des Affaires étrangères. Des responsables américains et jordaniens participent à cette rencontre dans la station balnéaire de Sharm el-Sheikh afin de soutenir le dialogue entre Israéliens et Palestiniens pour mettre fin aux mesures unilatérales et au cycle de violence. Et selon la même source, l'OLP, qui regroupe plusieurs factions palestiniennes mais pas le Hamas, participe aux négociations avec Israël. Le président français Emmanuel Macron fera le point demain lundi avec la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Louise Mushikiwabo, sur les prochains grands rendez-vous internationaux, dont les Jeux olympiques de Paris en 2024, a annoncé dimanche l'Élysée. La rencontre aura lieu en fin de matinée à l'Élysée à l'occasion de la Journée internationale de la francophonie. La discussion portera sur la mise en œuvre des projets conjoints en faveur de la francophonie comme vecteur de création, de dynamisme économique et d'apprentissage. Elle permettra aussi d'évoquer la préparation du prochain sommet de la francophonie qui aura lieu en France en 2024. Toujours en France, le gouvernement a resté inflexible ce dimanche quant à sa réforme très contestée des recettes malgré de nouvelles mobilisations et des violences à la veille d'un vote pour tenter de le renverser. Vladimir Poutine s'est rendu à Mariupol, la ville portuaire du sud de l'Ukraine, dévastée par des bombardements, est devenue le symbole de la résistance contre l'invasion du pays.
Sur VOA Afrique.
et tradition,
vérité et doctrine,
le dialogue des religions
sur la voie de l'Amérique.
Bonsoir madame, bonsoir messieurs, bienvenue sur VOA Afrique et dans ce dialogue des religions. Eric Manilakiza avec vous, Lionel Lunanela Gahima assure la mise en onde. Ce soir, nous parlons du rôle des guides religieux aujourd'hui, source de polémiques au Sénégal. Certains jeunes critiquent ouvertement ce qu'ils considèrent comme un silence des religieux face aux abus du pouvoir. Nous en parlons dans un instant avec nos invités. Nous aurons Imam Omar Dien, qui est à Dakar au Sénégal. Nous aurons également le journaliste Dame Babou et le journaliste Alassane Samba Diop. Pour savoir ce qui se passe au Sénégal, nous avons ce reportage de notre correspondant à Dakar, Seydina Abagay.
L'exécutif, le judiciaire et le législatif, voilà les trois pouvoirs consacrés par la constitution sénégalaise. Mais ce triptyque est complété par le pouvoir des guides religieux, un pan important qui a longtemps servi la démocratie. Un pilier secoué dernièrement par des attaques, insultes et des invectives à cause de la politique. Pour Aurélien Colli, chauffeur de profession, l'immixtion des guides religieux dans le champ politique est la cause de ces invectives qu'il juge regrettables.
C'est l'éducation, Bill.
La principale cause est l'éducation défectueuse des jeunes. Il faut éduquer les enfants dès le bas âge afin qu'ils puissent reconnaître l'autorité et lui donner le respect qu'ils méritent. Pour ma part, j'ai décidé de rester loin de la politique car les jeunes ne reconnaissent l'autorité de rien ni personne dès lors que cela ne va pas dans le sens de leur intérêt. C'est pour cela que les personnes âgées et les guides religieux sont ciblés.
Des actions suicidaires, voilà comment Cheikh Djibril Diop Lai perçoit l'animosité de certains jeunes envers les guides religieux. Pour ce membre du cadre unitaire de l'islam au Sénégal, s'attaquer à l'autorité des guides religieux conduira le pays vers l'abîme.
En période de tension, il est difficile de discerner le faux du vrai. Et c'est là qu'écouter et respecter la parole des guides religieux est important. Fragiliser les chefs religieux revient à couper la branche sur laquelle on est assis. Ce qui est sûr, c'est que tu vas tomber avec la branche et l'arbre va survivre. Les guides sont comme cet arbre. Peu importe la situation, ils seront toujours les socles de ce pays. Donc, il faut les respecter et suivre leurs injonctions.
Pour servir de relais et éviter une brouille du canal d'échange entre la société et les gouvernants, la régulation s'impose. C'est dans ce cadre que le médiateur de la République, le juge Demba Kandji, a initié des rencontres avec les différentes composantes de la société.
La régulation, ça fait partie des moyens d'apaiser. Je pense que, bon, quelque part, on ne peut pas tout faire. Mais déjà, ce dialogue-là va nous permettre, nous, bon, d'approfondir en direction des autres autorités. Voilà, en leur rendant compte des pulsions d'une partie importante de la société.
Considérés par beaucoup comme des gardiens de la stabilité, les religieux ont toujours joué leur partition quand le pays tangue ou est en proie à la tension, comme c'était le cas lors des manifestations meurtrières de mars 2021. Une implication qui les expose désormais à des attaques virulentes qui pourraient à la longue déstabiliser un des piliers de la nation sénégalaise. Seydina Abagay pour VOA Afrique, Dakar.
Voilà le reportage de Seydina Abagay qui essaye de résumer le contexte au Sénégal. Dame Babou, vous êtes à Dakar. Le slogan « So art wool bull ate », les jeunes demandent aux guides religieux d'agir. Comment le Sénégal en est arrivé là?
Bon, je pense que c'est un processus qui date d'il y a très très longtemps, hein. Malgré ce qu'on peut penser à l'intérieur même des communautés musulmanes au Sénégal, il y a eu toujours cette petite tension mais qui était toujours gardée. Parce que quand les colons ont pris le pouvoir, les populations ne se reconnaissaient pas à cette nouvelle autorité. Donc, il y a eu des offres de protection pratiquement pour, comme les grands marabouts, Cheikh Ahmadou Bamba, Cheikh Azmaliki, Cheikh Ali Ibrahimagnas et autres. Mais à côté, il y avait ce qu'on appelait les Serindara, qui n'ont pas toujours eu cette acceptation. C'est les gens qui faisaient l'instruction sans être vraiment les guides religieux. Donc le pouvoir en réalité de gestion de la communauté n'était pas entre les mains de ceux qui enseignaient au niveau des daras. C'est ça qui explique aujourd'hui que quand un phénomène qui remet en cause est de manière publique et verbale, c'est presque un coming out pour ces daras-là aussi. Parce qu'il y a aussi un autre groupe, qui, ce qu'on appelle depuis le départ, les Ibadou et autres, ceux qui sont sortis des écoles, des universités arabes, en particulier l'Égypte et l'Arabie Saoudite, qui n'ont jamais accepté l'autorité de ces marabouts-là. Donc, sur le plan politique, comme le contrôle des populations constituait un pouvoir politique, un pouvoir électoral, ce sont les marabouts qui se mettaient en avant, mais il y avait un phénomène presque souterrain qui date d'il y a longtemps. Les étudiants arabes qu'on appelle les Ibad Rahman ou Salafistes et autres ont toujours été presque en hibernation. Si ce ne sont pas des cellules dormantes, les Serindar n'ont jamais accepté leur position de marginalisation qui se limite simplement à l'instruction du Coran aux jeunes, mais l'autorité spirituelle et politique leur a toujours échappé. Donc c'est un phénomène qui n'est pas vraiment nouveau au Sénégal. Ça a pris maintenant une dimension avec la crise politique qui est maintenant très très profonde.
Imam Omar Dien, bonsoir et bienvenue dans le dialogue des religions. Est-ce que vous avez été surpris par cette interpellation des jeunes?
Pour les chefs religieux?
C'est ça.
Oui, parce que les chefs religieux, parce que nous, au Sénégal, nous avons l'islam contrôlé, comme on dit, les tarikhas. Nous sommes tous affiliés à un des groupes. Ce qui fait la stabilité du pays, parce que chacun de nous, quand le chef appelle à la paix, à la concorde nationale, tout le monde réagit et accepte que les propositions qu'ils nous font, c'est-à-dire toujours dans la sagesse, de l'obtention de la paix et de cultiver la paix aussi. Donc au Sénégal, c'est pourquoi nous demandons toujours aux populations de ne pas stigmatiser les chefs religieux qui sont des régulateurs de tension de la société qui sont qui jouent beaucoup pour la stabilité de notre pays. Et le mot est toujours fait parce qu'ils sont les garants d'une nation de paix, de concorde nationale et d'amitié, de convivialité en général, comme on peut dire. Parce que le Sénégal, comme tout autre pays, parce que nous sommes des gens de foi, nous sommes des croyants, la religion nous a toujours enseigné de faire la paix pour sa personne, de faire la paix de celui. Comme on dit, je te donne ma paix, je te laisse ta paix. Donc, nous sommes obligés de nous accorder avec cela, pour une paix, une concorde nationale. Donc, chaque fois, nous faisons des prières, qui préserve de la paix sociale et à travers nous, c'est les recommandations des chefs religieux qui sont nos guides religieux. À l'image du prophète Abdel Salam, il y a toujours le projet pour la paix, et comme tous les chefs religieux d'ailleurs, et les prophètes qui sont passés dans ce monde. Même s'ils ont été des conquérants quelquefois de par la religion, de s'imposer ou d'apprendre aux populations à adhérer aux religions, mais la religion nous a toujours imposé et enseigné la paix.
Oui, Imam Dien, est-ce que vous êtes, disons, préoccupé par ce que les jeunes disent aujourd'hui? Parce qu'il y a, on sent qu'il y a une menace.
Oui, il y a une menace parce qu'il y a une. Les jeunes n'ont pas été conscientisés de qu'est-ce que c'est que ce danger qui nous menace. Les politiques ont emporté l'esprit. Il y a l'esprit et la lettre, mais l'esprit n'est plus. Les gens ne croient plus à rien parce qu'il y a la crise. Les gens sont fatigués, il y a eu le Covid, il y a eu des manques de travail. Les gens n'ont plus de ressources. quelquefois, il y a beaucoup de chômeurs, il y a beaucoup de sans-emploi, il y a beaucoup de mécontents. Alors, les politiques bernent les gens en leur enseignant que si je prends le pouvoir, je vais vous donner du travail, c'est pas facile. La crise est mondiale, et même universelle, comme on dit. Donc, ce ne sera pas facile du tout. C'est que les gens, en tout cas, les gens n'ont pas pris conscience de la situation. Et ils sont menacés parce que la violence sur ces formes anciennes ou nouvelles, quelle que soit son originalité, elle reste toujours de façon actrice. Et c'est bien pour le bien matériel, et on peut même y mettre sa vie quelquefois. Donc il faut éviter cette crise, il faut l'éteindre. Et ceux qui sont en train de le porter, sont parce qu'ils sont menacés d'aller en prison, c'est tout simplement ça. Alors, ils ne veulent pas aller en prison, ils amènent une cacophonie, un désert pour éviter d'aller en prison, ou bien d'aller en procès, comme on dit, d'être général.
Alassane, Diop, comment vous percevez ces critiques formulées par les jeunes?
Mais je pense que c'est tout à fait naturel que les jeunes posent des critiques par rapport à beaucoup de choses qui viennent dans ce pays, surtout à la religion. Parce que vous savez, fondamentalement, au Sénégal, c'est un pays religieux. 95% disons, de musulmans et 5% de catholiques, donc c'est un pays de foi où beaucoup de gens aujourd'hui se réfugie dans la religion par rapport à beaucoup de choses. Mais il y a des questions qui ne sont pas encore réglées, c'est les questions de chômage, des questions de sous-emploi, des questions de pauvreté. Les gens sont confrontés à ces problèmes existentiels. Aujourd'hui, il n'y a pas de réponse par rapport justement à ces angoisses des jeunes. C'est pourquoi plus en plus on critique vis-à-vis des religions. On aurait pu au Sénégal mettre en place ce qu'on appelle des barres modernes, c'est des écoles modernes qui permettent à ces jeunes-là d'apprendre le métier. La plupart du temps, les jeunes qui sortent des barres sont devenus des commerçants, des marchands ambulants, c'est-à-dire qu'ils vendent dans les rues à la sauvette, pour qu'on soit pur. Mais ça ne peut pas avoir des métiers qui leur permettent d'avoir le travail. Je pense que la réponse commence à être trouvée par la conférence des Mourides, qui a mis en place une université, qui s'appelle l'université Cheikh Hamidou Bamba. Dans cette université, il est prévu justement de former les jeunes au métier. La mécanique, la menuiserie, la plomberie, d'autres métiers qui permettent au digital, des métiers digitaux qui permettent aux jeunes d'avoir quand même d'avoir des métiers pour pouvoir s'en sortir. Je pense que quelle que soit la religion que l'on pratique à travers le monde, la question de la dignité humaine du travail qui nous permet de vivre, si elle n'est pas réglée, il y a toujours des contestations que de tout. Et parce que ce sont ces réponses que les confréries au Sénégal commence à apporter, notamment la conférence Mouride. Et aussi, l'État du Sénégal doit aussi davantage mettre en place ces écoles de formation des Dara, parce que les écoles classiques françaises et catholiques au Sénégal ont cette vocation de former des jeunes dans ce qu'ils sont en train de faire. Mais le côté religieux a été toujours privilégié, le côté mémorisation du Coran, le côté de la mémorisation des textes, entre autres. Mais quel que soit le texte que vous avez exigé, si vous n'avez pas un emploi pour venir, il y aura toujours des condamnations à l'aider. Donc la religion doit s'accompagner de la dignité humaine. Cette dignité humaine, c'est le type de travail qui permet de la faire sortir. C'est une question à travers le monde. La COVID est venue à montrer la fragilité de nos États, même s'ils sont résilients par rapport à cette question. Je pense que c'est extrêmement important que ces réponses soient apportées à la jeunesse pour qu'ils puissent continuer à croire, avoir la foi et avoir aussi du travail pour nourrir sa famille.
Dame Babou, ces jeunes qui parlent d'abus du pouvoir, c'est quel type d'abus?
Bon, je pense que je vais commencer là où Alassane a terminé. Depuis avant nos indépendances, tous les grands courants ont utilisé les jeunes comme élément majeur, comme avant-garde. Et la jeunesse cherche, comme Alassane dit, non seulement le pain, mais aussi l'orientation. C'est ça qui nous a mené au mouvement clandestin communiste à l'époque. Ensuite, c'est ça qui nous a mené au mouvement Rastafari. Ensuite, des mouvements religieux, etc. Et c'est surtout, comme il dit, dans les écoles qu'on appelait l'enseignement coranique, en réalité, on ne nous apprend pas le Coran du tout. On ne nous apprend pas la religion. On nous apprenait à réciter simplement le livre.
et on ne sait même pas ce qu'il y a dans ces mots qu'on récitait. On faisait 4 ans, 5 ans pour pouvoir réciter tout le Coran. On dit que c'est un Khan, il a maîtrisé le Coran. En réalité, tu n'as pas appris le Coran du tout. Aujourd'hui, donc, ces jeunes-là, toujours dans le désespoir, aussi bien pour leur vie matérielle que du point de vue de leur orientation, ils ont vu un nouveau mouvement, ils ont vu un nouveau mouvement. Et les politiques, comme ils le font toujours, utilisent ce phénomène de désarroi de la jeunesse, que ce soit de l'opposition, que ce soit du pouvoir. Jusqu'à une époque récente, on se battait pour avoir le vote. Donc les marabouts avaient un poids électoral important. Mais quand il s'agit de la rue, les gens qui veulent utiliser la stratégie claire et nette et simple, qui est que donnez-nous ce que nous voulons, ou bien on brûle le pays. En réalité, cette expression en Wolof, « Artoul d'Anga Arte », vous les marabouts, si vous ne dites pas au pouvoir de stop, vous allez devoir éteindre le feu parce qu'on va brûler on va brûler le feu dans la rue au Sénégal. En réalité, cette jeunesse-là, c'est comme toutes les jeunesses, dans une période historique donnée, se retrouve dans une orientation et des justifications idéologiques et des théories flashy. Et après, c'est une période historique qui va passer.
Oui, mais ces jeunes qui demandent aux guides religieux de parler, le fait de parler ne va pas nécessairement faire cesser ces abus. Est-ce que...
Mais si vous voulez, en réalité, ces abus-là, c'est des slogans politiques qui n'ont pas été transformés en un programme politique, soumis au pouvoir comme soumis aux guides religieux. C'est en réalité un slogan mobilisateur pour les jeunes. Et comme toujours, on a toujours, si vous voulez, conçu le discours politique, le discours partisan, le discours de mobilisation, pour que ça sonne très très fort, mais que ça ne dise pas grand-chose, ça ne dise pas quelque chose de localité. Quels sont ces abus-là, etc., etc. Est-ce qu'on doit dire aujourd'hui au pouvoir judiciaire de dire toutes les poursuites contre Ousmane Sonko, par exemple, mettez-les de côté? Ou bien, c'est quoi, ne le convoquez pas à la police. Si les gens marchent dans la rue, est-ce qu'on doit les regarder faire? Mais ces abus-là, ce qu'on appelle les abus, ne pas interdire dans ce pays. Une jeunesse a toujours été pour le ne pas interdire, et les politiques, les politiciens ont toujours utilisé ce genre de réclamations diffuses, non expliquées, pour mobiliser les jeunes pour leur propre cause, eux, les politiciens.
Alassane, est-ce qu'on peut dire que la situation est explosive actuellement?
Elle est tendue, la situation est tendue. Explosive, non, je ne sais pas jusqu'à dire que c'est explosive. Elle est tendue comme toujours au Sénégal, hein, à la veille d'élection, des enjeux comme ça, il y a eu toujours ces confrontations-là. Hein. Ça, c'est depuis Senghor avec Abdoulaye Wade, Senghor Abdou Diouf avec Abdoulaye Wade, aujourd'hui c'est Machikan Sonko. Il y a eu toujours des tensions quand les enjeux sont là. Mais cette fois-ci, on voit que c'est une chose. Les débats aujourd'hui au Sénégal ne sont plus des débats programmatiques, ne sont pas des débats d'idées, ne sont pas des débats de confrontation de programme. C'est plutôt des invectives, des insultes et ensuite des débats personnels. Ajouté à cela, il y a les réseaux sociaux qui ont aujourd'hui envenimé la situation, parce que vous savez, n'importe quel Sénégalais aujourd'hui a son téléphone portable, a sa page Facebook, a son WhatsApp, peut dire tout ce qu'il veut, pratiquement où il veut, avec des déclarations insensées. Vous savez, ça crée une sorte de psychose un peu partout, parce que chacun parle, chacun dit ce qu'il veut dans les réseaux sociaux. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est... Les réseaux sociaux sont devenus un véritable problème pour tous les gouvernements à travers le monde, c'est pas seulement au Sénégal. Même aux États-Unis, vous l'avez vécu avec l'histoire de Trump, complètement le Capitole. Les gens qui ont attaqué le Capitole, par exemple Trump, ça aussi, ça a montré un signe de démocratie. La démocratie sénégalaise, c'est une démocratie majeure. Depuis 1776, on vote au Sénégal, mais ça n'empêche pas qu'il y ait des couacs de temps en temps dans sa marche, comme aussi ça a été le cas aux États-Unis tout récemment.
Imam Omar Dien, comment vous participez à l'apaisement de la population? On sait que les guides religieux au Sénégal, quand ils discutent avec la population, ça change d'attitude.
Oui,
règle générale, quand les dirigeants interpellent les populations pour aller dans le sens de la paix, ça porte toujours ses fruits. C'est-à-dire que nous, comme je vous ai dit tantôt, que nous avons un islam confrérique. Cet individu, pratiquement, est affilié à une tariqa, comme on dit aussi d'ordre général. Les marabouts appellent tous aussi dans le même sens, dans les vers de la paix. Et en général, ça paye ses fruits. Parce que les populations sont croyantes, ils ont de la foi, et tout le monde est prenant en général. Peut-être les casses, les blessures, les lacrymogènes, les pneus qu'on brûle font un spectacle, mais les gens sont moins violents, ils ne agressent pas avec des armes blanches ou n'entendent pas ce que disent quelquefois les politiques qui les emportent dans les landes, dans les désordres. Et ça, c'est ça, malheureusement, qui n'est pas bien. Mais les chefs religieux, aussi bien que l'Église, comme on dit, hein, tout le monde, comme que nous sommes dans un pays laïque, nous faisons tout pour appeler à la paix. Donc, pour avoir la paix des esprits, la paix corporelle, la paix de l'âme, la paix du pays, tout chacun appelle à sa façon pour aller vers la paix. Donc, nous avons besoin de ça, en cette partie où ça menace vraiment, dès l'instant que les candidats se prononcent sur les élections, la date des élections est fixée, les ambitions commencent à être démesurées, et chacun veut avoir quelque chose, et ça, en général, c'est ça qui amène le problème. Donc, il ne faut plus des dialogues d'idéologie ou autre, mais ils appellent à la violence. Et la violence n'a jamais réglé le problème. Au contraire, elle va être toujours dévastatrice pour tout le monde.
Dame Babou, le fait que ces jeunes demandent aux guides religieux d'intervenir, ils reconnaissent quand même l'importance de leur rôle dans la société sénégalaise. Dame? Dame
Babou,
allô? Oui, je vous entends.
Oui, vous m'entendez?
Oui, je vous entends. Oui.
Ouais, je vous dis que il n'y a rien de nouveau qu'on fasse appel aux guides religieux. Depuis Ngalendou Diouf et Senghor, les familles religieuses intervenaient dans les processus électoraux, dans les débats politiques. On se rappelle bien que en 1968, en réalité, en grande partie, le pouvoir de Senghor a été sauvé par Serigne Fallou, qui a demandé aux grévistes de retourner dans les amphis et dans les écoles et dans les lieux de travail. Mais c'était exactement la même chose. Même les élections de 2000, il y avait des familles maraboutiques qui étaient intervenues pour le président Abdou Diouf en grande partie. Et il y en a certains, une minorité qui intervenait en faveur du président Abdoulaye Wade. C'est la même chose les élections passées. Et ça a toujours été comme ça au Sénégal. Et comme l'imam l'a dit, et Alassane l'a répété, à la veille des élections, moi je me souviens, en 2000, il y a eu même des intellectuels, comme on le fait aujourd'hui encore, qui prenaient des initiatives pour qu'on reporte les élections, parce que la tension était grande. Quand le président Abdoulaye Wade est revenu après un exil de plus d'un an, il avait dit qu'il avait mobilisé 1 million de personnes qui l'ont accueilli de l'aéroport Yoff à son domicile. Donc il n'y a rien de nouveau. Moi je ne m'inquiète pas, outre mesure, même cette situation-là, la tension, sa visibilité et la sensibilité amplifiée seulement parce que les moyens de communication sont plus grands encore. C'est quand la radio est apparue, on disait que DVC va faire brûler le monde. Quand la télévision est apparue, on a dit c'est fini, il n'y aura plus d'autorité, il n'y aura plus de contrôle. Les réseaux sociaux, les médias sociaux ont amplifié. Les gens peuvent avoir une nervosité presque incontrôlée, mais pour moi, c'est juste un processus tout à fait normal.
Imam Dien, il nous reste quelques secondes en appel à l'endroit de ces jeunes.
Bon, d'éviter de créer des problèmes, parce que quelquefois, ça nous fait que nous sommes perdus. C'est pourquoi nous demandons aux responsables sociaux, leaders politiques d'opinion, hommes et femmes de médias, de mesurer leur grand pouvoir et leur grande responsabilité d'informer et d'éduquer.
Merci.
Et aussi de réveiller les passions et faire œuvre de paix dans la vérité et la patience.
Merci Imam Omar Dien, merci Dambabou, merci Alassane Samba Diop pour vos différentes contributions dans cette édition du Dialogue des religions. On parlait de l'importance des guides religieux dans la société sénégalaise. Eric Manila qui a été avec vous, Lionel Nanila Gahima.